Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 3 février 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir pour vous livrer tout un podcast. On a encore énormément de sujets à regarder avec vous ce soir. Johnson qui arrive avec le CF Montréal. Yao Ferdinand prêté en CPL. Les négociations entre la MLS et l'association des joueurs. On va se parler également de la Coupe du Monde 2026 parce que ça retient encore aujourd'hui l'attention dans l'actualité. Quelques détails à vous fournir là-dessus et on va terminer ça avec la PLFQ. D'ailleurs, je vous ai mis un lien sur les réseaux sociaux, sur Twitter pour aller suivre les Panthers qui... Arius aborde fièrement le blason ce soir des Panthers. Ça va bien, Arius?
Ça va super bien, Pierre. Et toi, ça va?
Good. Ben oui, ça va super bien, moi aussi. On va se commencer par Bjørn Johnsen, qui arrive avec le CF Montréal. C'est peut-être là, le neuf qu'on attendait depuis longtemps chez le club de foot Montréal. Un Américain, donc, joueur TAM, 6 pieds 5, méchant beau gabarit, ça, pour mettre en avant du filet adverse. Donc, je pense que c'est une belle prise d'Olivier Renard aujourd'hui.
Écoute, je crois que c'est une excellente nouvelle pour le club football de Montréal. Moi aussi, je dois changer les
habitudes.
On doit s'habituer. Écoute, un avançante, 29 ans, puis dans le langage de football, à 29 ans, on dit toujours c'est l'âge majeur qu'on atteint physiquement, et puis c'est le pic. Donc, on voit que c'est un joueur qui a eu beaucoup d'expérience au niveau européen, puis en Asie. Donc, moi, je suis très intéressé à savoir qu'est-ce qu'il va nous amener. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je vois qu'il a vraiment des bons statistiques. Il a quand même joué en première division en Hollande, a marqué 16 buts. Tu vois que c'est un joueur qui était intéressé par Benfica Sporting dans le passé, en 2014. Le transfert n'a pas été fait à cause que l'offre avait été rejetée à cause de la demande, mais on voit que c'est un joueur qui a un potentiel très intéressant. Qu'est-ce que l'Impact recherche?
Je pense que oui, je pense que ça va être un beau complément à ce qu'on avait de besoin. On était rendu là à construire un peu en haut. On avait fait du travail beaucoup derrière, un petit peu au centre avec Mihailovic, donc en milieu de terrain. Et là, je pense que c'est une belle ajout, Johnsen, en haut du terrain. La seule chose qui me fait peur, c'est lorsque je regarde son CV, c'est beaucoup d'équipes en très peu de saisons. Donc, il a changé de formation presque à toutes les années. J'espère juste qu'on ne reverra pas un cas Arilela Novello, par exemple. Mais, tu sais, je ne sais pas si ça peut cacher un problème d'attitude, mais il a changé beaucoup d'équipe au cours des dernières saisons. C'est le seul bémol que j'aurais, parce que sinon, moi non plus, je ne l'ai pas énormément vu jouer. J'ai vu quelques highlights aujourd'hui, mais je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait vraiment aider la formation du CF Montréal.
Ça amène un bon point, JF, hein, parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'équipes dans les dernières années. Mais on sait que aussi le football professionnel ou le sport professionnel, ça demande beaucoup d'adaptation parce que bon, il y a beaucoup d'échanges, c'est une business à rouler. Mais en même temps, vu qu'effectivement, on recherche de la stabilité dans une équipe, on recherche des joueurs qui va être là pour 2, 3, 4 ans, qui va nous amener à un certain niveau supérieur. Et peut-être aussi, c'est un joueur qui cherchait aussi vraiment une philosophie qui allait avec son caractère, son attitude, ce qu'il allait chercher. Donc, je suis sûr que Thierry Henry et M. Renard vont le voir. Et puis, espérons que M. Johnson va pouvoir bien s'installer dans l'équipe et puis à marquer des buts pour l'équipe.
Là, c'est la première saison, dans mon souvenir, parce que je m'en reviens, j'y repense là, depuis l'entrée en MLS. En tout cas, c'est la première saison que je me dis, là, il va y avoir un embouteillage sur le banc. J'avais présenté il n'y a pas longtemps un 11 de départ. Je pense que littéralement, l'Impact devrait jouer en 3 défenseurs centrales, peut-être 5 avec les 2 latéraux. Mais là, je regardais, bon, on a 18 joueurs qu'on peut aligner à chaque rencontre. Et là, j'ai enlevé de mon 11 Mason Toy pour faire place à Johnson. On a Torres qui est arrivé, mais pas encore confirmé. Joaquin Torres. Donc, pour une des rares fois, là, je ne sais pas qui j'enlève de mon banc, Arius, sincèrement. On a une belle profondeur, là.
Écoute, tu te souviens, JF, dans notre bilan, on avait parlé que des fois, l'entraîneur se retournait et il ne voyait pas
une option.
Qu'est-ce qu'il allait... Une option. Donc, l'Impact est en train de régler ce problème-là, puis qui est un bon problème. Donc, si, quand tu as de la profondeur, ça veut dire qu'il va y avoir de la compétition. Ça veut dire qu'aux entraînements, ben, il va avoir un niveau d'entraînement intense, élevé. Oui. Et puis, chaque joueur, il va falloir qu'il se bat pour leur position. Et puis, on va avoir une... Si à l'interne, il y a une belle compétition saine et puis qui pousse l'équipe à un autre niveau, ben, on va voir le résultat sur le terrain par la suite.
C'est sûr, c'est définitif. Patrick nous disait que... Johnson est un international, donc norvégien, mais il est arrivé ici donc en tant qu'Américain, dans le fond. Fait qu'il y a pas de, il prend pas une place internationale, c'est un joueur TAM. Et là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on regarde le 11 avec le 18 possible. Puis vous pouvez...
Je sais pas,
oui, vas-y.
Juste pour intervenir un peu dans ce que tu dis, je sais pas comment ça fonctionne, les règles de la MLS, mais c'est vrai qu'il est un international norvégien, mais il est de natif américain. Donc, je sais pas si c'est le fait qu'il joue pour l'équipe nationale, la norvégienne va affecter, mais il faudrait voir les règlements, effectivement.
Parce que bon pour point. L'instant, on me dit qu'il sera américain, donc pas de spot international qui sera pris. L'autre bonne nouvelle. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va jouer avec ça. Je ne sais pas s'il reste des annonces à faire, mais il va falloir présenter le maillot de l'Impact de Montréal. Pas de l'Impact, mais du CF de Montréal au public.
Ouais.
Et il reste 2 places de joueurs désignés qui sont disponibles. Donc, est-ce qu'on va annoncer des joueurs désignés? Est-ce qu'on va prendre des joueurs de l'alignement présent et les mettre en joueurs désignés pour alléger un peu la charge comptable, comme par exemple, on pourrait faire de Rudy Camacho un DP pour sauver un peu sur la masse salariale. Bref, il y a plein de possibilités, mais reste que je pense pas que le club de foot Montréal va présenter des maillots vides. Moi, je pense qu'il va y avoir du monde à mettre dedans lorsqu'on va faire cette présentation-là. Alors, ça va être intéressant de voir... Est-ce qu'on va nous annoncer le capitaine ou est-ce qu'on va combler ces places de DP qui sont encore disponibles chez le CF Montréal?
Écoute, Jeff, c'est une équipe en reconstruction, puis je sais pas moi, si je suis l'entraîneur ou Monsieur Renard, si je suis prêt tout de suite à annoncer le capitaine de l'équipe. Par contre, quand on va faire la présentation du chandail et tout, c'est sûr que c'est super bon pour le marketing de l'équipe. À ce que je vois que l'impact est intéressé à un joueur désigné comme Florin Tanas. Florin Tanas, qui joue en Bucarest, un joueur que même la NYC aussi est intéressé, Football Club. Donc, un joueur de 25 ans, milieu offensif.
Ça fait très bien dans le projet.
Ça fit très bien dans le projet. Puis on disait aussi, ben, qui va remplacer Boyan? On parle beaucoup de Boyan. Qui va remplacer qui va être le 10 de l'équipe? Écoute, espérons qu'ils nous ont une belle surprise à nous présenter lors de la présentation du chandail. Mais c'est à y voir parce que c'est une équipe en reconstruction. Puis encore là, on parle d'aller chercher des joueurs désignés, mais c'est encore plus de profondeur, encore plus de dépenses. Donc, est-ce que l'équipe est prête à ça? Ben, c'est seulement la direction qui va nous diriger et qui va nous informer par rapport à ça.
Et on devrait le savoir assez rapidement parce que Olivier Renard avait mentionné qu'on aurait là, les détails sur le maillot dans la première ou la deuxième semaine de février. Donc, ça devrait venir assez rapidement. Je prends quelques commentaires parce que ça va vite. Bien là. Sûr. Les gens sont en feu.
En feu ce
Pascal,
soir.
Pascal qui nous dit tous les joueurs sont à toute fin pratique remplaçables tels que chacun de ces joueurs a sa doublure, à part présentement peut-être Romel Kyoto. Donc effectivement, je pense que ça va instaurer, t'en parlais tantôt, une saine compétition au sein de cette formation-là qui va faire en sorte qu'on va relever d'un cran la capacité de cette formation-là. Johnson n'utilisera pas de place internationale donc parce qu'il a la double nationalité, alors c'est réglé.
C'est Mathieu réglé, nous dit...
Camacho ou Struna seront joueurs désignés pendant un an, selon moi. C'est quelque chose de possible. Ça se peut que l'Impact ne rajoute plus d'effectifs. Puis on ne se le cachera pas avec la pandémie, avec le fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir une saison au moment où on se parle. Ça devient difficile d'aller recruter des joueurs internationaux. Le mercato vient de terminer. Bref, ça se peut qu'on prenne des joueurs de l'alignement pour combler ces places de DP ou ça se peut qu'on les laisse vides tout simplement. Si Tanès vient, on jouera probablement en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Ça va être le fun, en tout cas, de voir évoluer cette formation-là. Si Tanès venait qu'à se joindre à cette formation-là, je pense que ça va être vraiment bien. Pat nous dit « Mihailovic peut jouer comme aile droit ». Donc, encore là, dans les dernières acquisitions que le CF Montréal a fait, on voit beaucoup quand même de polyvalence, des joueurs qui peuvent jouer à un, deux postes. Donc ça aussi, c'est des cartes cachées importantes pour Thierry Henry parce que la saison ne sera pas facile. Là. Il y a la saison qui va être écourtée, peut-être à l'étranger. Il y a la pause internationale, il y a les blessures, fait que... Il en faut des joueurs.
Il en faut des joueurs. Non seulement qu'il en faut des joueurs, il faut un équilibre aussi. Il faut un équilibre à tous les postes. Donc, les blessures viennent vite. Et surtout, si ben, on sait très bien que l'impact a fait face. Donc, je crois que ils sont en bonne position en ce moment pour tout remettre sur pied. Donc, j'espère qu'ils vont être capables de continuer cette progression-là en rajoutant des effectifs importants. Mais par la suite, le résultat doit se faire sur le terrain.
C'est clair. Je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour un joueur désigné, nous dit GF. Je pense qu'on a pas mal terminé le magasinage, sincèrement. Je m'attends pas à d'autres gros ajouts majeurs chez l'Impact de Montréal. J'aimerais énormément qu'on aille chercher Florent Tanas, mais je peux pas le garantir. Je viens de perdre Arius qui revient à l'instant. Bon, je l'avais perdu.
Oui, excuse-moi.
C'est pas grave.
Okay. Et... Oui, vas-y.
Ouais, c'est ça. Jeff qui nous disait, je pense qu'il n'y aura pas assez d'argent pour un joueur désigné. Ça se peut. Vu les conditions actuelles, la pandémie, on sait que ça sera pas facile pour aucune formation. Donc, ça se peut bien qu'on décide d'y aller avec ce qu'on a. Éric nous dit Camacho, bonne fin de saison pour lui. Avait très bien terminé, hein. Souvenez-vous, avait joué en 6 le dernier match de la saison et ça avait bien été pour Camacho. Camacho, un excellent joueur à mes yeux, un joueur qui a une bonne relance. À un moment donné, les fils se touchent dans un match, puis il l'échappe. Mais sinon, je pense que c'est vraiment bien. Je vous adore les boys, mais arrêtez de dire l'Impact, c'est le club de foot de Montréal. On va finir. À la fin de la saison, Éric, je te promets qu'on va être bon. Mais,
tu as raison, Éric.
C'est une habitude à prendre. On va réussir. D'ici la fin de la saison. En tout cas, on va essayer avant le lancement de la saison où deux spots internationaux de disponibles, ils vont être utilisés. Donc, ça sera tout ça à voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Dans un autre ordre d'idées, Khalifa Yao et Kayson Ferdinand se dirigent en CPL. Le club de foot Montréal a annoncé aujourd'hui donc le prêt de ces deux éléments. Khalifa Yao s'en va rejoindre Cavalry FC, si je ne me trompe pas. Et
exactement, Cavalry FC qui Ferdinand avec Ottawa, Atlético d'Ottawa. Et
exactement, donc Kayson Ferdinand à Ottawa, Khalifa Yao. Et ces deux joueurs, donc, Arius, qui, sincèrement, ont besoin de jouer. Si on veut pas reproduire un peu ce qu'on a fait avec Anthony Jackson-Amel ou encore avec
Balou Tabla
ou les deux frères là. Voyons le nom m'échappe.
Les frères Wimet.
Oui, mais c'est celui qui est blessé là, qui jouait avec l'Impact la saison dernière. Voyons, son nom m'échappe. C'est pas grave, c'est pas important, mais donc, si on veut pas avoir des joueurs qui réchauffent le banc et qui se développent pas, il faut absolument que ces joueurs-là voient du terrain. Et la CPR, Chouanière, Éric, merci. Max Arbour est là également. Mathieu Chouanière, c'est ça. Si on veut pas faire des Mathieu Chouanière, faut que les gars touchent du ballon, faut que les gars voient du terrain. La CPL est une bonne façon pour eux de voir du terrain. Et ces joueurs-là, donc, doivent... Je me trompe-tu, Arius, mais à mes yeux, à moi, ces deux joueurs-là doivent aller déchirer la CPL.
Encore une fois, JF, c'est des sujets qu'on a abordés il y a pas longtemps. Que nos jeunes avaient besoin de jouer. Bon, bravo à l'Impact d'avoir pris cette décision-là. Des décisions difficiles pour un jeune joueur, mais un jeune joueur doit comprendre la situation quand c'est le temps de son développement. Donc, l'idée derrière ces prêts est de le permettre de prendre de l'expérience en obtenant, comme tu as bien dit, des minutes de jeu. Yao, depuis juin 2019, JF, il a joué seulement 127 minutes de jeu.
Ça, c'est même pas deux matchs.
C'est même pas deux matchs. Donc, il a été titulaire deux matchs, justement. Il a été titulaire deux matchs et par la suite, il est rentré comme ci, comme ça. Mais c'est un exemple parfait du manque de progression de l'athlète. Ça, c'est un exemple parfait. Donc, et puis c'est comme ça qu'on brûle ces athlètes-là aussi, parce que pratique, mais on ne me donne jamais la chance de jouer. Il y a un manque de confiance qui s'installe, puis après ça, ben, l'athlète n'a plus la motivation ou le goût de vouloir se surpasser ou d'aller à l'autre niveau. Ferdinand, depuis l'âge de 10 ans, il est avec l'Académie de l'Impact. Il a évolué avec les différentes équipes de niveaux différents. Il a fait l'équipe U17 canadienne. Mais moi, je m'attends à ce qu'un jour, l'Impact, quand ils vont appeler un jeune à l'équipe 1, mais que ce jeune-là ne doit pas se retrouver à retourner dans les divisions plus bas ou pour jouer. On doit s'assurer que le joueur monte à haut niveau, il va venir pour aider l'équipe et puis continuer son développement aussi à travers ces professionnels-là.
Exactement. Mathieu qui nous pose une question sur les réseaux sociaux pour Yao et Ferdinand. C'est mieux de jouer en Canadienne Première Ligue ou avec l'équipe U23. Aujourd'hui, sincèrement, Mathieu, quand j'ai vu l'annonce que Yao et Ferdinand étaient prêtés par le club de foot Montréal, du côté de la CPL, ça a été mon premier réflexe. Je me suis retourné de bord, j'ai envoyé un message à aux communications du côté de du club de foot Montréal pour demander est-ce que faut en conclure que on va retarder le projet de l'équipe U23, parce que moi sincèrement je pensais qu'il allait avoir une vague d'annonces de joueurs qui seraient envoyés avec la formation U23 et visiblement, là, on se met à prêter des joueurs en CPL. C'est sûr qu'il y a une clause de rappel à tout moment. Donc, l'Impact demain, le CF Montréal, demain matin, peut retéléphoner la formation et dire on reprend Yao, on reprend Ferdinand et ils reviennent avec l'Impact. Pour l'instant, ce que j'ai eu comme réponse du côté du club de foot Montréal, c'est j'imagine que la pandémie, les restrictions de voyage ont compliqué certaines choses. Donc, à ce moment-ci, on ne peut pas s'avancer sur ce qui se passe concrètement avec la formation U23 qui devait prendre forme avec le CF Montréal. Donc, je dis pas que le projet est sur la glace. Moi, ce que je dis, c'est que des joueurs qu'on prête auraient dû être, selon moi, avec l'équipe U23, mais peut-être qu'avec la pandémie et tout ça, on va retarder un peu la mise en place de cette formation-là.
Moi, je crois que... Moi, je crois que JF, la logique, elle est simple. Si l'équipe U23 serait déjà en fonction cette année, je ne pense pas que ces prêts-là auraient été faits. Puis en même temps aussi, c'est quoi l'objectif derrière ces prêts-là? Ben, on l'a dit, c'est clair, c'était leur donner des temps de minutes de jeu. Donc, est-ce que l'équipe U23 va... C'est faux, ça. Fait que c'est... Est-ce que l'équipe U23 va leur donner ces temps de jeu-là? Pour l'instant, je pense que le projet le dit clairement que c'est non. Puis ces jeunes-là ont besoin de jouer. Le potentiel d'être éventuellement des futurs joueurs de l'équipe 11. Donc, il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils se développent.
Donc, c'est la décision, elle est bonne. Même s'il y aurait une formation U23, on est peut-être mieux de les envoyer en CANPL pour s'assurer que ces gars-là obtiennent des minutes. Mais c'est là qu'on va pouvoir faire, Arius, l'évaluation de ces joueurs-là. Ces deux joueurs-là s'en vont en CPL avec Atlético et avec Cavalry, mais ils doivent pas réchauffer le banc. Faut que ces gars-là soient titulaires, sinon... Sans dire que ce sera un constat d'échec, faudra réorienter un peu le développement de ces joueurs-là là, s'ils ne réussissent pas à avoir match après match une place de titulaire.
Exactement. Puis moi, je pense que ces joueurs-là doivent aller là. Puis en disant que nous, ben, on arrive de la MLS, une niveau supérieur, on a vu les gens de pratique, on a pratiqué avec des joueurs internationaux. Des joueurs qui ont beaucoup d'apparence au niveau international. Donc, maintenant, on s'en va dans un niveau où est-ce qu'on doit dominer pour que quand l'équipe première va nous rappeler, mais qu'on soit pas sur le banc, qu'on soit titulaire sur le jeu. Donc, c'est la responsabilité première de l'athlète. Avant tout, qu'on leur donne la possibilité de jouer et puis de gagner du temps de jeu, puis de gagner de l'expérience. L'objectif premier, c'est de revenir ensuite, par la suite, pour aider l'équipe première.
Et l'équipe première, ben on sait pas encore si elle va jouer, s'il va y avoir une saison de négociation difficile présentement entre la MLS et l'association des joueurs. Chose sûre, c'est qu'on saura demain soir à minuit ou plus tard qu'est-ce qui il advient, parce que le dernier deadline, c'est jeudi soir à minuit. Donc, on saura exactement ce qui va se passer dans ce cas-là. Mais l'association des joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils ont passé une commande à toutes les associations de joueurs à travers la planète de soutenir leur mouvement et leur négociation, parce que visiblement aujourd'hui là, je regardais sur mes réseaux sociaux et tout ce que je voyais, c'était des associations de joueurs, incluant la NBA, qui repartageaient le point de vue de l'association des joueurs. Donc je pense qu'ils ont été chercher là une bonne vague d'appui ces joueurs-là aujourd'hui.
Écoute, on voit que comment que c'était important en tant que joueur et dans le sport professionnel. Et puis ça, c'est un exemple pour nous aussi, même au niveau amateur, comment c'est important d'être uni, rassemblé. Parce qu'on défend toutes les mêmes raisons, hein, on défend tous les mêmes objectifs. Et les joueurs de la MLS, je pense qu'ils ont travaillé très fort avec les propriétaires de la MLS pour mettre une ligue en place pour qu'il y ait un beau spectacle. Mais en retour, les joueurs s'attendent que...
qu'il y ait une certaine considération.
Oui, qu'il y ait une considération. Donc, cette considération-là, elle est claire. Dans les dernières années, ben, c'est le joueur qui vend le service. Veux, veux pas, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, par la suite, on voit une organisation, une association, où est-ce que c'est une organisation qui a eu une perte de 1 billion de dollars. Donc, elle est concernée aussi également à l'avenir de la Ligue. Donc, la MLS est en discussion avec l'association des joueurs pour une nouvelle convention collective, mais en même temps, les joueurs aussi veulent en retour une assurance de leur salaire et de l'avenir aussi de leur convention.
Parce que là, présentement, ce qu'on veut du côté de la MLS, c'est d'étirer cette convention collective. Alors, on va dire, regarde, on ne coupera pas dans vos salaires, mais par contre, on va s'entendre 2 ans de plus avec le même maximum. Et là, les joueurs, le calcul qu'ils font, c'est là, on va être dans la fenêtre 2026, la Coupe du monde unie avec Canada, États-Unis, Mexique. Tous les yeux de la planète vont être rivés sur le...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Continent nord-américain en matière de soccer. Donc, nous autres, ça nous intéresse pas tant d'étirer, là. Tu sais, oui, on est prêt à prendre des risques et partager des risques avec vous. Puis je pense qu'on l'a vu la saison dernière, tu l'as bien dit, les joueurs ont fait énormément de concessions en allant jouer dans des bulles, en s'isolant de leur famille, parce que, tu sais, ces gars-là, on a beau dire c'est des professionnels puis ils gagnent des bons salaires, mais tu sais, c'est des joueurs...
C'est des êtres humains.
C'est ça, exactement. C'est des êtres humains, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des frères, des sœurs, des fils, des... Voilà. Bref. Il y a une vie de famille reliée à tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont fait des concessions la saison dernière? Clairement, oui. Il faut un retour là juste du balancier. C'est là-dessus qu'on s'entend pas présentement. Mais les joueurs, clairement, ce qu'ils disent, c'est... Là, on sait qu'il y a le renouvellement de l'entente des droits télé qui s'en vient. On sait qu'il y a la Coupe du monde qui s'en vient. Puis, on mérite, et je pense à juste titre, notre part du gâteau.
Exactement. Puis... Mais en même temps aussi, il y a aussi les propriétaires qui disent, ben nous, on a fait aussi, on a investi beaucoup, on a décidé de prendre le risque de perdre de l'argent, puis on va prendre un autre risque encore cette année avec le fait que nous plusieurs gouvernements empêchent les partisans dans les estrades. Donc, c'est une autre grosse perte pour eux. Donc, l'entente... Mais une chose qui est sûre, tu l'as bien mentionné dans ton dernier podcast, les deux associations veulent se retrouver sur le terrain.
Ça, donc, c'est clair.
Ça, c'est clair. Donc, à partir de là, je pense que le juste milieu, ça va dépendre de la façon qu'ils vont négocier pour le 2 ans. Mais juste pour rectifier, mais ça les amène jusqu'à 2027 s'ils acceptent le 2 ans. Donc, c'est quand même beaucoup de sacrifices pour les joueurs. Puis, mais une chose qui est sûre aussi, les propriétaires assurent et certains que s'il y a un lockout, ben, les joueurs vont quand même recevoir leur salaire à 100%. Donc, il y a quand même des avantages, mais aussi, c'est plus à l'interne les désavantages ou les avantages que eux ils savent que nous on sait pas, qui fait en sorte qu'il y a un peu de manque d'entente, mais je pense qu'ils vont finir par s'entendre parce qu'on a tous besoin de voir les joueurs sur le terrain. Ouais. Les propriétaires aussi également parce que ils ont fait beaucoup de sacrifices dans les dernières années et puis il y a eu beaucoup de pertes. Et mais en même temps aussi, ben, les joueurs aussi ont fait beaucoup de sacrifices, donc on veut les voir sur le terrain.
C'est ça, exactement. Et je pense que il est encore ben, pas tôt, mais on s'en vient sur le dernier droit, le dernier deadline, mais je pense qu'il est encore temps que les deux parties réussissent à trouver un terrain d'entente. Et à ce moment-ci, là, à 8h28, le 3 février, moi, je suis encore confiant qu'on va réussir à avoir une entente avant minuit demain soir. Donc, je suis bien content, bien conscient des enjeux, mais je pense qu'on va réussir à s'entendre. La seule chose que je trouve dommage, c'est que je pense que malgré tout, ça sera pas une décision qui va se baser uniquement sur le foot. Il va avoir, ça va se baser sur le calcul comptable de la business. Est-ce qu'on perd plus d'argent à jouer ou pas? Et c'est ça que je trouve dommage parce que là, le fan va payer le prix. Les équipes vont en payer le prix. Les joueurs vont en payer le prix. Mais ça sera peut-être malheureusement une opération mathématique, financière qui va décider l'issue si oui ou non on aura une saison.
Exactement, Jeff. C'est cet effet-là qu'on veut pas qu'il y ait en que la MLS ne veut pas, puis je pense que les joueurs non plus ne veulent pas, parce qu'à long terme, ça peut affecter le football professionnel et aux États-Unis et au Canada. Donc, il ne faudra pas que la MLS, après un certain nombre d'années, tombe en grève déjà, là, dès cette année. Il ne faudra pas.
Non, c'est ça. Yeah, en effet. Une autre chose qui pourrait nuire au rayonnement, c'est si Montréal passe à côté de la Coupe du Monde 2026. On sait que ça regarde pas bien présentement. Le gouvernement du Québec a décidé de retirer l'octroi d'une subvention de l'ordre de 100 millions qui avait été auparavant dédié à la tenue de la Coupe du Monde 2026. On apprend aujourd'hui que finalement, c'est pas si pire que ça. Donc, tout le monde disait, ouais, mais il faut mettre Montréal sur pause. Fait que là, la ville de Montréal aujourd'hui a sorti puis a dit, non, attendez, il n'est pas question de mettre Montréal sur pause. Oui, on va décaler quelques événements dans le temps, mais il n'est pas question que pour la tenue de la Coupe du Monde, on annule plein d'événements. C'est pas ce que la FIFA a demandé. Fait qu'on veut être transparent là-dedans. Mais oui, pendant les matchs, la Coupe du Monde, pendant les trois matchs, il ne faut pas qu'il y ait rien à Montréal. Puis, il demande quelques jours avant, quelques jours après pour la préparation et la désinstallation, si on veut, de l'événement. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça se peut qu'on entre en conflit avec d'autres événements. On va soit les avancer ou les reculer dans le temps. Mais on ne mettra pas Montréal sur pause. Et du même coup, ben, on a annoncé que Montréal cherche donc à combler le 100 millions qui manque, qui devait provenir du gouvernement québécois. Mais quoi qu'il en soit, là, j'avais Reda Agouram cette semaine dans le podcast et on en a parlé. Montréal ne peut pas passer à côté de cet événement-là, Arius.
Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord, JF. Je vais faire un peu... Je vais faire un peu l'avocat du diable.
Oui.
J'aime beaucoup le foot. J'adore le foot. Mais la Coupe du Monde de soccer, je crois que tout peuple aimerait recevoir la Coupe du Monde de soccer chez eux. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Les dernières Coupes du Monde, l'a un peu témoigné si on revient à la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2018. Les Brésiliens ont investi énormément d'argent à construire des stades qu'aujourd'hui qui sont pas utiles à rien du tout. Donc, comment on va organiser cette Coupe du Monde à Montréal, la façon qu'on va l'organiser est la question pour moi. Parce que économiquement parlant, oui, ça pourrait être rentable, mais la façon qu'on va l'organiser, est-ce que ça va être rentable? Oui, c'est un événement, c'est le plus grand événement mondial, si on veut dire. Est-ce que Montréal devrait recevoir un événement comme ça, une ville comme Montréal? Oui, mais comment on va l'organiser? C'est ça la question. Est-ce qu'on a assez de fans amateurs de foot, culturellement parlant? Moi, je crois que oui aussi, mais c'est comment on va l'organiser? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va coûter énormément. Aujourd'hui, on paye encore pour, si je me trompe pas, on paye encore pour le stade olympique, pour les Jeux olympiques de 76. Donc, c'est des événements énormes qui sont super pour le touriste, qui sont super pour, disons, les business locales. Mais en même temps, il y a aussi des conséquences derrière ça. Donc, il faut vraiment une bonne organisation. Il faut vraiment une organisation
solide.
Qui connaît très bien la ville de Montréal, qui connaît très bien le marché de Montréal pour pouvoir dire, OK, on y va, on va investir ce somme d'argent-là parce que c'est beaucoup d'argent, JF, c'est beaucoup d'argent. Et puis, moi, j'aimerais ça voir la Coupe du Monde et à Montréal et à Toronto. On a eu la possibilité de voir la Coupe du Monde U20 des filles. On a eu la possibilité de voir la Coupe du Monde U20 garçons. Donc, on a vu les retombées un peu étaient pas très, très positifs. Donc, on espère que la Coupe du Monde des hommes, la Coupe du Monde des hommes va nous permettre de voir quelque chose autrement ce qu'on pense.
C'est sûr. Ça fait que ça va être intéressant de suivre ce dossier-là. La ville de Montréal se donne un mois pour boucler donc ce dossier-là, sans quoi elle devra tourner la page. Alors, il reste un gros mois à faire, un gros mois à trouver là les fonds et justement de quelle façon on va entrer ça pour que le projet soit viable. Puis je pense que, Arius, tu l'as bien dit, c'est un projet qu'on peut pas mener à moitié. Il faut des gens qui connaissent ça, qui savent ce qu'ils font. Alors moi, je pense, j'ai rien... Je veux que Montréal soit là, je veux que Montréal soit présent, mais je pense que c'est tout ou pas en tout. On peut pas faire un événement à moitié. Donc, si on y va, faut y aller à fond la caisse et s'assurer que cet événement-là soit un
mais
grand
GF,
succès.
Reda et toi, vous l'avez bien mentionné aussi, il faut que la communauté du football montréalaise, la communauté du football québécois soit derrière le mouvement aussi. Parce qu'il faut une éducation à ce niveau-là pour que les gens, les politiciens ou le gouvernement elle-même, qui a plus une culture hockey et qu'une culture soccer, soient en mesure de dire « OK, c'est clair dans notre tête, on sait à quel point, comment c'est important d'avoir la Coupe du Monde de soccer pour un peuple. » Parce qu'on voit on a vu les effets, j'ai vu des articles, on voit les biens aussi, l'effet de la Coupe du Monde quand la France a gagné. On a vu les bienfaits pour la France, côté émotionnel. Donc, il y a un bien aussi côté social, côté pour la société aussi dans tout ça. Donc, tout le monde, c'est comme un grand rassemblement de toutes les cultures. Donc, c'est amusant, c'est le fun, c'est festif. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses superbes à obtenir en obtenant un événement de la sorte. Mais, encore une fois, comment on va l'organiser? Et avec qui on va l'organiser?
C'est en plein ça. Il faut donc avoir la bonne équipe, mais le momentum est là. Donc, il faut maintenir tout ça. Une ligue aussi que le momentum, c'est la PLFQ. Je vois que tu abordes fièrement ce soir ton gilet des Panthers Football Academy. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, Arius donc dirige et on peut-tu dire le propriétaire de Panthers Football Academy?
Oui, exactement.
C'est comme ça qu'on le nomme. Et il y aura une équipe donc en PLFQ masculine et féminine.
Exact. Écoute, ça fait déjà un an qu'on a une équipe de la PLFQ dans la capitale nationale, dans la division capitale nationale. Ben, en bref, la
PLFQ... 30 secondes, Arius, on le voit là oui, présentement donc à l'écran. PLFQ, donc c'est la première ligue de football québécoise. C'est le plus gros.
De futsal.
De futsal, oui, excuse. C'est le plus haut niveau là qu'on peut jouer.
Exactement. Donc, c'est le plus la Ligue provinciale de futsal organisée et gérée par la Fédération Soccer du Québec. Donc, elle réunit les équipes seniors du plus haut calibre dans la province, autant du côté féminin que du côté masculin. Et puis, il existe actuellement deux conférences, la conférence Grand Montréal puis la conférence Capitale Nationale. Et l'année dernière, il y a eu une troisième conférence qui a été rajoutée, qui était la conférence Outaouais. On voit que elle est en train de prendre beaucoup d'expansion, cette ligue-là. Parce que, encore une fois, on a parlé souvent de donner la possibilité aux jeunes de jouer, de continuer leur développement. Mais on a vu un Mohamed Farsi qui arrive de cette ligue-là, qui joue dans la PLFQ, puis qui a gagné joueur de l'année en U21. Donc, c'est une ligue qui permet aussi les avantages que ça donne aux joueurs du Québec de se faire voir pour l'équipe nationale de futsal. Puis on a la possibilité d'avoir l'entraîneur Kit Seladopoulos qui demeure au Québec, donc qui peut aller dans cette ligue-là voir les joueurs qui jouent. Donc c'est beaucoup de visibilité pour les joueurs du Québec et aussi pour leur permettre d'atteindre un autre niveau. Encore une fois, on a vu le Sporting Club en 2017 qui a pu jouer en Honduras la Coupe CONCACAF. Donc, le Sporting Club, c'est celui de Montréal et non celui de Québec.
Okay.
C'est celui de Montréal qui a eu la chance d'atteindre un niveau de compétition très élevé. Donc, tout est possible pour les jeunes joueurs. Donc, aujourd'hui, Panthers Football Academy, on pourrait avoir la possibilité d'aller représenter le Québec dans toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes du Québec. Et puis, à partir de l'âge de 17 ans et plus, vous avez accès à cette ligue-là. Et puis, c'est une ligue qui joue pendant l'hiver en gymnase. Donc, la ligue dans le Grand National se joue à Québec et celui du Grand Montréal se joue à Montréal.
Donc, ça joue où, Arius, à Québec?
À Québec, ça joue à l'Académie Saint-Louis, okay. Dans le grand nouveau complexe de l'Académie Saint-Louis. Donc, vraiment super pour les jeunes joueurs qui arrivent du secondaire, qui finissent le secondaire, qui arrivent du collège, et qui vont étudier à Québec, qui vont étudier à Montréal. Ben, ça leur permet de continuer leur développement et tout en jouant dans une bonne ligue. Et puis, et de continuer. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans tout ça, c'est que les écoles secondaires, les écoles primaires devraient commencer à un peu plus à suivre cette ligue-là et à voir le développement du futsal parce que c'est les vrais règlements du futsal. Et puis, un peu avoir, disons, l'emblème, le modèle pour continuer à développer le futsal en RSEQ.
Après le parcours au secondaire, Denzel nous dit la transition vers la PLFQ se fait très, très bien en Outaouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est le fun de voir que ces transitions-là se font. Je pense que le futsal, pour le développement technique, pour la qualité d'exécution des joueurs, c'est un développement qui est hyper important pour améliorer la prise de décision rapide des joueurs. Souvent, on dit, vous allez voir, plus en soccer à 11, plus vous augmentez de niveau, plus la pression vient vite. Et parfois, on sent des joueurs déboussolés parce que là, ils ont le ballon, la pression vient vite, la prise de décision. Cette fraction de seconde-là que les joueurs ont, que les athlètes ont avant de prendre la décision, souvent, c'est ce qui vont faire qu'ils vont passer à un autre niveau ou pas. Donc, je pense que dans ce sens-là, le futsal aide énormément au développement à ce niveau-là, dans la prise de décision rapide et la prise d'information également sur le terrain.
Exactement. C'est un sport d'équipe axé sur la collaboration et l'opposition rapide. Et puis, en plus, les joueurs doivent s'adapter à un environnement dynamique et disposent d'un temps et d'un espace très limité, comme tu l'as bien mentionné, et puis prendre des décisions et mener des actions rapides. Donc, à partir de là, dans un espace réduit, bon, ça te permet, quand tu arrives en soccer à 11, où est-ce que tu as plus d'espace, encore plus d'espace, puis que tu as développé ta technique, ben, t'as encore plus de temps de jeu, puis à prendre les meilleures décisions sur le jeu aussi. Puis on voit aussi des joueurs des grands joueurs comme Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Xavi, Iniesta, qui ont tous été élevés par le futsal. C'est un sport qui est très reconnu en Amérique du Sud.
Et c'est également, là, pour les spectateurs, les auditeurs qui sont avec nous, ceux qui n'ont jamais été voir un championnat, un tournoi de futsal, l'ambiance, elle est incroyable. Aux abords des lignes, là. Moi, je suis allé une couple de fois avec le sport-études, c'est sûr, ici à Rivière-du-Loup, les suivre. Puis, quand ça se met à crier puis à chanter dans un gymnase fermé, on le dit, c'est des petits airs restreints, ça met énormément d'ambiance.
Ah oh, oui, vraiment une belle ambiance. Vraiment une belle ambiance.
Je voudrais pas qu'on oublie, Arius, on en parlait tantôt, il y a également le pendant féminin, donc dans la PLSQ, où il y a encore une fois Panthers Futsal Academy qui est là, qui est bien présent.
Oui, écoute, je veux donner l'opportunité à que ce soit les filles ou les garçons, de continuer leur développement et leur croissance à partir d'un sport qu'ils aiment. Et puis, le Panthers Futsal Academy, bon, il y a une ligue qui est... Il n'y a pas de ligue à Québec en ce moment pour les filles, mais il y a une ligue à Montréal. Donc, je me suis dit, c'est important aussi de continuer le développement du côté des féminins. Donc, s'il y a des jeunes filles du Bas-Saint-Laurent qui vont étudier à Montréal et qui veulent continuer à jouer à un niveau respectable et sérieux, la Panthers Futsal Academy est là pour les représenter parce qu'on est une équipe du Bas-Saint-Laurent, l'Opérivoise, et puis ben on se promène, puis on veut donner la possibilité puis la visibilité aux jeunes athlètes de se développer, puis éventuellement de les voir poursuivre leurs rêves à un autre niveau.
Et tu vois, tantôt, tu parlais, Arius, qu'il faut que les écoles secondaires s'impliquent un petit peu plus dans cette ligue-là. Voyez-vous, Denzel nous mentionne notre école secondaire. Et Denzel, si tu es encore là, si tu peux juste nous préciser c'est quelle formation. Notre école secondaire a une équipe en PLFQ composée d'anciens joueurs du programme. Donc, fort possiblement qu'il y avait un sport-études ou, en tout cas, du parascolaire du côté de l'école secondaire.
S'il parle de où Ottawa, je crois qu'il parle bien de Montbleu. Montbleu ont vraiment un excellent programme de futsal. Je ne sais pas si Denzel il vient de là, mais ils ont vraiment un excellent programme de futsal. Puis aussi, si je ne me trompe pas, à Gatineau, Saint-Alexandre, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il vient de Montbleu ou Saint-Alexandre. C'est vrai, effectivement, ils ont un très beau programme de concentration futsal. Bien ça, Collège Saint-Alexandre. L'armée rouge, ouais. Tu as bien mentionné.
Exactement.
Donc, ils ont vraiment un beau programme de futsal sur pied. Donc, à chaque année, avec le sport études, qu'on allait dans les tournois, ben, on les voyait souvent dans les tournois. Et puis, comme je te dis, il y a beaucoup d'écoles qui ont des beaux programmes, comme l'Académie Saint-Louis, François Bourin. Donc, je pense qu'il y a quelques années, les Sphinx à Rivière-du-Loup avaient une belle équipe de filles. Donc, les Lorivielles ont dominé dans cette ligue-là, Adèle Boudreau. Donc, je crois que c'est vraiment un beau sport puis qui peut permettre aux jeunes de s'épanouir. Puis, non seulement ça, au niveau international, juste pour te dire, le dernier championnat canadien a permis à ce que les gens de Yukon et Nunavut de participer au championnat canadien parce que c'est juste le futsal qu'ils peuvent pratiquer.
OK. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de...
Non, donc le futsal... Donc, un pays comme nous, qui a une 4 saisons, puis que l'hiver dure plus que 3 mois, ben on est aussitôt bien de continuer à développer nos jeunes joueurs à travers le futsal.
C'est sûr, c'est clair, c'est garanti. Et je pense que c'est une bonne façon pour le faire. J'avais mis sur Twitter les liens justement qui mènent à Panthers Football Academy, un lien que Arius nous avait partagé. Et vous allez voir, là, c'est le lien, si je me trompe pas, Arius, qui mène sur la page Facebook de Panthers Football Academy. Et
Le site Internet aussi, le site Internet de Football Academy, puis ça explique un peu l'histoire des Panthers Football Academy et aussi des petites vidéos puis des petites photos. Puis même au bas niveau aussi, on développe les jeunes. Donc, on a une petite futsal académie pour les jeunes aussi. Donc, on fait des festivals L'année dernière, on a eu la possibilité d'inviter l'équipe nationale d'Haïti qui va participer à la prochaine participation de la CONCACAF, qui vont jouer contre le Canada et tout. Donc, on a eu une belle performance contre eux. Donc, c'est vraiment un niveau très élevé. Et puis, on a plusieurs joueurs qui fait du Barcelone qui fait partie de l'équipe. Et cette année, j'ai recruté également ton fils qui va faire partie de l'équipe, Cédric Morancy, donc qui est très intéressé à faire partie de l'équipe. Donc, je trouve ça très formidable que les jeunes qui finissent leur année secondaire, qui finissent le sport d'études, qui ont un très bon niveau, ben, de vouloir venir faire partie des Panthers Football Academy.
Oui, je pense que ça va être une super belle saison pour Panthers Football Academy en gros. En terminant, Arius, j'ai partagé cette semaine un camp sur les réseaux sociaux, justement, relié au Panthers Football Academy. Je sais que pour certains auditeurs, là, c'est peut-être loin parce qu'on est dans le Bas-Saint-Laurent. Mais il y a un camp que tu as mis en ligne également là, pour les plus jeunes, un camp de vacances.
Exactement, un camp de vacances multisport. On s'en va sur notre deuxième année. C'était le début l'année dernière. Et je vous invite à envoyer vos jeunes à dépenser de l'énergie sur le terrain et puis à apprendre plusieurs disciplines. Donc c'est pas juste le soccer, on pratique le soccer, le football, le baseball, le football, tout. Donc comme je vous ai dit, pour moi c'est important le développement des jeunes. Donc tous les sports y font partie. Et puis en même temps, ben ça permet à ce que les jeunes socialisent et puis se développent physiquement. Et puis, qui reste en bonne santé et puis qui continue des bonnes scènes de vie.
Puis là, nous autres, ici, on va être en zone orange. Donc, on va avoir plus de latitude un peu, là.
Voilà, exactement. Puis en espérant que, éventuellement, on va devenir en zone verte et puis qu'on puisse aller compétitionner aussi à l'extérieur.
Ça va faire du bien, je pense, à tous, à tous les jeunes. De bouger, de reprendre ça. Cédric, c'est pareil, ce soir, là, il a reçu un message de son équipe de Beauport qui allait recommencer, puis là, il est
excellent. Bravo, bravo. Ouais, il faut. Puis les jeunes en ont besoin, hein, surtout maintenant.
Vraiment. Donc, ça fait le tour pour ce soir. Encore une fois, un autre excellent podcast. Je vous remercie à tous d'avoir été là en feu ce soir dans les commentaires. Fait que c'est le fun. Ça montre une belle interaction avec le public dans cette émission-là. On va mettre en ligne bientôt une pétition pour le soutien de Montréal à la Coupe du Monde 2026. Donc, ça sera surveillé présentement. Le texte est à la révision. Donc, ça s'en vient. Et on va continuer donc nos démarches pour aussi se parler de CPL. On s'avait dit, moi puis Arius, qu'on allait mener de quoi pour soutenir un peu là, un projet dans la région de Québec. Donc, on va s'en venir tranquillement, pas vite, là-dessus. Je pense que ça va être bien. Mathieu qui nous dit merci. Et Denzel, merci. Bonne soirée, les gars. Bonne soirée.
Merci, les gars. Merci à vous tous, les auditeurs aussi, également.
Bye-bye, Arius.
Bye-bye, Jeff. Puis, une bonne soirée à toi.
Merci. Bye à tous.